qu'il est beau pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Merci Seigneur pour ce rassemblement autour de toi, en toi et par toi. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que nous abordions un thème qui me paraît passionnant, mais que nous n'aurons pas le temps, la possibilité, la compétence, disons-le, de parcourir à fond. Ce thème, c'est celui de la bénédiction ou des bénédictions divines. Passionnant, dans un sens particulier ce matin, dans ce sens que ces bénédictions divines sont mises à l'épreuve des malédictions. C'est ce que nous trouvons dans le livre des Nombres, dans trois chapitres, 22, 23 et 24. En relisant ces chapitres, j'ai pu mesurer la place importante occupée par les bénédictions dans ce récit. Parce qu'on s'aperçoit que la relation existant entre Dieu et son peuple s'organise autour des bénédictions divines. Mais on s'aperçoit en même temps que les pensées de l'homme sont souvent portés vers les malédictions. C'est pourquoi j'ai intitulé cette méditation « Les bénédictions de Dieu à l'épreuve des malédictions ». Je vous invite à lire quelques versets au chapitre 22 et au cours de la méditation, nous aurons l'occasion de relire d'autres versets. 22, les versets 7 à 12. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. C'est Balaam. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit : Passez ici la nuit. Et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, Voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Situons un peu le contexte historique de ce passage. Ces trois chapitres des Nombres nous livrent un récit étonnamment remarquable d'un épisode particulier du long cheminement des Israélites à travers le désert. Au bout de 40 années, les voilà enfin dans les plaines de Moab, aux portes du pays promis. Saisis de frayeur, se considérant dans l'incapacité d'affronter Israël sur le plan militaire, le roi de Moab fait appel à un personnage, mi-prophète, mi-devin, pour les maudire en espérant, par cette action, affaiblir le peuple hébreu et le chasser. Mais c'était sans compter avec la loyauté de Dieu envers ce peuple qui est le sien. Dieu va déjouer ce complot disons, spirituelle. À plusieurs reprises, il mettra dans la bouche du devin la bénédiction au lieu de la malédiction. Or, souvenons-nous, la conduite de ce peuple au cours de la traversée du désert n'a pas été tellement irréprochable. Loin de là, des murmures, des révoltes contre Dieu, sans parler de l'attitude de ceux qui voulaient retourner en Égypte. Pourtant, Dieu ne l'a pas abandonné. Au contraire, ici même, dans cette situation critique, il réaffirme sa détermination de le conduire jusqu'au bout, en le faisant triompher de tous ses ennemis, de tous ceux qui cherchent à lui barrer la route. C'est dans ce sens que j'ai pu apprécier les bénédictions de Dieu selon trois aspects. Nous venons d'entendre Dieu dire à Balaam, « Tu n'iras point avec ces hommes, tu ne maudiras pas ce peuple, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » En réfléchissant sur les aspects de la bénédiction de Dieu, j'ai trouvé que ces bénédictions étaient premièrement enracinées. Elles étaient enracinées dans l'amour de Dieu. J'ai trouvé aussi, au long de ces chapitres, que ces bénédictions de Dieu étaient permanentes. Et enfin, que ces bénédictions de Dieu allaient crescendo jusqu'à leur plénitude. Alors, ce sont ces trois chapitres, chapitres entre guillemets, que je vais essayer de vous présenter en parlant de l'enracinement des bénédictions de Dieu, de leur permanence et de leur plénitude. En premier lieu, nous avons retenu la déclaration de Dieu à Balaam, « Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. » Dans cette affirmation, il n'y a pas seulement l'interdiction claire de ne pas maudire, mais il y a en même temps la justification de cette interdiction. Dieu n'était pas obligé de donner de justification, mais il précise « Tu ne maudiras pas, car ce peuple est béni. » Il ne dit pas « Ce peuple sera béni », mais il est béni. C'est déjà un fait accompli. C'est une nouvelle extraordinaire que ce peuple soit béni, tel que nous pourrions le suivre dans ses déplacements dans le désert. Dans ce cas, nous pouvons nous demander s'il est béni, mais depuis quand? S'il est béni, mais pourquoi? Depuis quand? Historiquement, nous le savons, cela remonte à Abraham. Dieu lui avait fait la promesse, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Il y a donc un moment précis dans l'histoire de l'humanité où Dieu a accordé sa bénédiction à un homme et pour toute sa descendance. Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il pris cette décision? Quelle qualité, quel mérite possédait Abraham pour cela? Nous ne trouvons pas de traces de mérite. Abraham n'a rien demandé. Et même d'autres passages, comme dans le livre de Josué, nous diront que Abraham faisait partie d'une famille dont les ancêtres servaient les dieux étrangers. Par conséquent, a priori, il n'y avait pas de raison valable, humainement parlant, pour que Dieu bénisse cet homme et toute sa descendance, avec serment. La seule raison, c'est que Dieu aimait Abraham. C'est son amour qui l'a porté à aller lier une relation avec Abraham, une relation d'amitié. Ésaïe, au chapitre 41, verset 8, dira que Abraham était aimé de Dieu. Et dans la lettre de Jacques, il a aussi parlé de cette amitié entre Dieu et Abraham, mais pour une autre raison. Pas seulement en priorité à cause de l'amour de Dieu, mais à cause de la réponse d'Abraham à Dieu, une réponse de foi. Jacques nous dit, à cause de la foi d'Abraham, il a mérité d'être appelé ami de Dieu. Par conséquent, dans ce choix, il y a une réciprocité. D'une part, Dieu, souverainement, dans sa bienveillance, va chercher quelqu'un, l'a arraché à sa famille, à ses proches, à sa terre, pour en faire un peuple lui appartenant en propre. Et d'un autre côté, un homme qui a pris Dieu au mot. Dieu, j'allais dire, c'est inconnu. Il nous est toujours un peu inconnu quelque part, parce que Dieu nous surprend toujours. Et bien c'est cela, Abraham voit quelqu'un débarquer, qui lui parle, il lui fait confiance. Et là, cette relation s'est établie selon le plan de Dieu. C'est un don gratuit. Alors, nous pouvons nous demander, en disant, « Oh, Abraham avait de la chance. Il avait de la chance. Mais et nous, aujourd'hui ?» Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Avons-nous cette, entre guillemets, chance d'être aimé, appelé, choisi pour être en bénédiction aux autres? Oh, il y a des pensées qui nous viennent. Pas toi, Maurice. Tu sais qui tu es. Toujours ces pensées humaines qui contrecarre la bonté gratuite de Dieu, qui nous aime tel que nous sommes. Oui, la bonne nouvelle des apôtres, que les apôtres nous ont annoncée et que nous avons reçue, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a acquis pour que nous soyons un peuple saint, une nation sainte, le peuple de Dieu. La bonne nouvelle que nous avons entendue nous donne l'autorisation de nous considérer comme bénis en Abraham également. Suivant la parole, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. L'apôtre Paul va plus loin. Il ne considérera pas seulement que nous sommes bénis en Abraham, mais que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toute éternité. Ce n'est pas facile à expliquer cela, ce choix de Dieu avant la fondation du monde. Dans une des épîtres de Paul, nous aurons aussi cette affirmation, je crois que c'est dans la lettre à Tite, Dieu nous avait accordé sa grâce avant les temps éternels. Par conséquent, quand Dieu déclare que ce peuple est béni en parlant du peuple d'Israël, nous pouvons faire nôtre cette affirmation. Nous sommes bel et bien bénis, doublement, comme descendants d'Abraham par la foi, mais aussi selon l'amour de Dieu qui s'est penché sur nous dans sa miséricorde pour faire de nous un peuple alors que nous n'étions pas un peuple. Et même davantage, dans Éphésiens 1, Paul nous dit, il fait de nous ses enfants d'adoption. Oui, nous avons bien de la chance. La miséricorde, la bonté de Dieu se sont manifestées envers nous. Les bénédictions de Dieu s'enracinent dans sa bonté. Deuxième point que je voulais mentionné, évoqué, c'est la permanence de ces bénédictions. il est bon pour nous de ne pas perdre de vue qu'en nous appelant ou qu'en choisissant un premier peuple, Dieu avait un projet d'amour, c'est que nous soyons en bénédiction à l'humanité entière. Les Écritures nous parlent de ces projets de Dieu. En particulier, il y a un verset du psaume 33 qui nous rappelle que si les projets des humains ne réussissent pas toujours, les projets de Dieu, eux, subsistent de génération en génération. Par conséquent, nous pouvons dire que si les projets de Dieu demeurent de génération en génération, les bénédictions qui sont liées à ces projets aussi demeurent. Il y a la permanence des bénédictions en raison de la permanence des projets de Dieu. Et dans ce livre des Nombres, au chapitre 23, nous avons une confirmation de cette permanence des bénédictions et des projets de Dieu. Balaam, ce faux prophète ou ce devin, qui a été soudoyé par Balak pour maudire Israël, à un moment donné, a été forcé, sous la contrainte de l'Esprit de Dieu, de prononcer des bénédictions au lieu des malédictions. Au chapitre 23, les versets 19 et 20 nous disent ces paroles de Balaam: « Lève-toi, Balak, prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'humain pour se rétracter. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas? J'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne révoquerai point. » Voilà donc, c'est la permanence de ces deux éléments, de ce que Dieu dit et de ce qu'il a fait, sa bénédiction. Ce sont des propos clairs et puissants et éloquents. Il n'y a pas beaucoup de remarques à faire, à ajouter. Mais je dirais seulement quelques remarques concernant le verset 20. Ce verset 20 est tellement riche que plusieurs versions ont tenté de traduire cette richesse de sens et d'expression. Nous avons dans certaines versions « J'ai reçu l'ordre de bénir ». D'autres versions nous disent « J'ai choisi de bénir ». Ou encore « J'ai assumé la charge de bénir ». Ou encore « J'ai été pris pour bénir ». Et enfin, « J'ai pris la bénédiction ». Vous voyez toutes ces nuances qui nous montrent la permanence de cette bénédiction et à l'encontre de laquelle rien ne peut y faire, aucune malédiction ne peut tenir en face de telles paroles. Tout cela nous démontre donc que la bénédiction de Dieu est incontournable. Rien ne peut déjouer sa décision qui est fondée sur l'amour. Rien ne peut faire dévier la parole de vérité qui proclame cet amour de Dieu. Notons bien que bien des siècles plus tard, des prophètes rappelleront au peuple de Dieu que la parole de Dieu est éternelle et son amour permanent. Deux citations pour étayer cela. C'est d'abord Ésaïe, au chapitre 54, qui nous dit: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Rien ne peut faire dévier la parole et ce qui est accordé, la bénédiction, selon la compassion de Dieu. Et Jérémie agira aussi dans ce sens. Jérémie 29, 11, quand il nous dit « Je connais les projets que j'ai pour toi, pour vous, projets de paix et non de malheur. » Souvenons-nous que lorsque ces paroles ont résonné, souvenons-nous de la situation tragique du peuple. Désastre national, religieux, politique, le temple incendié, le pays en ruine, l'élite déportée. Et Dieu persiste à dire, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur. Ou Ésaïe, mon alliance de toi, pour toi, ne s'éloignera point, même si les montagnes s'éloignent. Voilà donc un peu de mots, ce que nous pouvons dire concernant la permanence des projets de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela nous dit pour nous dans la Nouvelle Alliance ? Je donne la parole à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en méditant sur l'histoire des Israélites, dira, affirmera que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Il évoquera aussi, malgré les multiples désobéissances et infidélités du peuple, l'apôtre Paul dira qu'ils sont toujours aimés à cause de leur Père. Donc voilà donc cet enracinement dans l'amour des projets de Dieu nous fait prendre conscience que ce qui nous a été annoncé par l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous, que c'est quelque chose qui tient vraiment. La croix de Jésus-Christ est la démonstration claire et puissante de cet amour de Dieu pour nous, et cette croix reste encore debout. Si bien que chaque génération reste placée devant les faveurs divines accordées avec résolution. Chaque génération est fortement invitée à entrer dans cette merveilleuse réalité, moyennant la repentance et la foi. Chaque génération doit et peut répondre à cette offre de bénédiction qui est toujours valable. Dieu nous donne ainsi la preuve de son amour permanent par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et sur cette croix a été réalisée, pourrait-on dire, la plus grande transaction qu'ait connue l'histoire humaine, parce que là, sur cette croix, Jésus-Christ a pris notre malédiction pour nous donner la bénédiction d'Abraham. Et alors nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Voilà donc les richesses de la bénédiction de Dieu, son enracinement, sa permanence. Enfin, parlons un peu de la plénitude des bénédictions. Le chapitre 24 débute par une parole de Balaam qui mérite d'être retenue. Cette parole nous montre, nous déclare, chapitre 24, verset 1er, Balaam vit que Dieu prenait plaisir à bénir Israël. En fait, Balaam, le devin, constatait que les bénédictions divines ne devaient pas tarir. Au contraire, ces bénédictions tendaient à se multiplier jusqu'à atteindre leur plénitude. L'Esprit de Dieu fait contempler à Balaam l'élévation et l'expansion du royaume d'Israël. Il déclare « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël ! Elles se répandent comme des torrents, comme des jardins au bord d'un fleuve. L'eau déborde des eaux. Ses semailles sont arrosées par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. » Nous relevons donc ces images très expressives de la plénitude des bénédictions, la beauté et la prospérité des demeures d'Israël sont comparables à des torrents qui se répandent. Elles dépassent, elles débordent leurs limites. Et dans la prescription de ce que contemple Balaam, l'eau, sans doute vous l'avez noté, est présente partout en abondance. Elle déborde, si bien que la semence mise en terre est copieusement arrosée, les jardins offrent le spectacle d'une nature luxuriante. De tels éloges concernant la plénitude des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu, vaudront à Balaam d'être congédié par le souverain de Moab, qui est évidemment mécontent et furieux. Mais Balaam, cette fois-ci, ne se laisse plus faire. Avant de s'en aller, il va prononcer un oracle prédisant la venue d'un glorieux personnage en Israël. Toujours au chapitre 24, les versets 5 à 7, il déclare « Je le vois, mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'observe, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il brise les temples de Moab. Il décime les fils de Seth. Il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. » Non seulement Balaam a contemplé la prospérité du peuple, mais il contemple de loin la venue d'un personnage glorieux. Ce personnage n'est pas identifié avec précision. On peut penser que l'astre associé au sceptre renvoie à un chef ayant une dignité royale. C'est pour cela que certains pensent qu'il s'agissait de David. Mais d'autres voyaient une référence à ce que nous dit le Nouveau Testament dans l'Évangile selon Luc, l'astre levant qui éclaire tous ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort et qui concerne la venue de Jésus-Christ. Ou encore d'autres établit une relation avec l'étoile que les mages ont vue en Orient, ce qui désignerait alors aussi le Messie, fils de David. Ces dernières visions, donc, pour nous, aujourd'hui, nous disent quelque chose. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance et nous marchons vers la plénitude des grâces de Dieu, de ses bénédictions en un seul homme, en Jésus-Christ. L'eau en abondance évoquerait l'esprit, puisque Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 7, déclare que celui qui a soif vienne. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et l'évangéliste ajoute, il dit cela à propos de l'esprit que tous ceux qui croient devaient recevoir. L'eau en abondance. Et puis l'autre image citée par Balaam, c'est cet homme, ce personnage, qui est pour nous le Messie. Celui qui vaincra tout mal, qui terrassera le prince de ce monde et qui vaincra le dernier ennemi, la mort. Ainsi, selon le bienveillant dessein de Dieu, les bénédictions divines en faveur de l'Église sont actuelles et vont atteindre leur plénitude avec la Jérusalem céleste. Je termine par quelques mots qui ne sont pas forcément des mises en garde. Dieu dit à Balaam, « Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Nous faisons partie d'un peuple béni. Ne nous laissons pas aller à maudire sous une forme ou sous une autre. Tout à l'heure, je disais, il y avait des pensées qui peuvent nous venir, nous concernant personnellement. Oh, tu ne le vaux pas, ça. Tu ne le mérites pas. Mais peut-être aussi que nous pourrions penser cela d'autres membres. Oh, un tel. Je me souviens d'une remarque qu'un cher collègue m'avait faite. Parce que un membre m'avait proposé une fonction. Et alors ce frère collègue m'a dit, oh, tu connais un tel? Toujours ce soupçon du malin, du serpent, qui essaye de contrecarrer les bénédictions de Dieu. Donc retenons bien ce premier avertissement que Dieu avait donné à Balaam. Tu ne maudiras point ce peuple, il est béni. Malgré tout ce que vous pouvez constater comme défaut, des choses bancales peut-être, il est béni. S'il se tourne vers son Seigneur, il aura la plénitude de cette bénédiction. Et puis l'autre avertissement, ou plutôt l'ordre, j'ai reçu l'ordre de bénir. Avons-nous choisi de bénir? Considérons-nous comme étant pris pour la bénédiction? Là encore, il y a un passage que je n'ai pas lu. Balaam disait à Balak, ou plutôt le contraire, Balak disait à Balaam, « Ne maudis pas, mais ne bénis pas non plus. » Fais le mort. Dieu ne tolère pas les tièdes. Il n'est pas question devant nos frères de nous contenter de ne pas maudire et de ne pas bénir. Nous avons à choisir la bénédiction pour eux comme pour nous. Nous sommes appelés à être des sources de bénédiction pour les autres parce que la plénitude de Dieu est là. Que le Seigneur bénisse dans nos cœurs ces quelques réflexions qui sont peut-être un peu décousues, mais je suis certain que le Seigneur vous conduira dans la bonne voie à vous réjouir, à nous réjouir ensemble, que rien ne peut contrecarrer les bénédictions de Dieu. même si tout bouge, tout ce qui nous paraît solide nous déçoit, lui ne nous déçoit jamais. Que son nom soit béni. Amen.